Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une météo astrale, surprise, pour le mois de décembre 2022. Et comme à l'habitude, je suis accompagnée de quelqu'un. Et ce quelqu'un est Geneviève Boulet.
Bonjour tout le monde!
Donc, dans la météo astrale, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde c'est quoi les transits qui s'en viennent au cours du mois pour être capable de savoir avec quelle énergie on va travailler, comment est-ce qu'on peut les utiliser avec le plus de fluidité possible, j'ai envie de dire, puis être capable d'extirper de tout ça les leçons, les apprentissages pour s'en sortir grandi, quoi. C'est-tu bon, ça?
Une petite boîte à outils pour votre mois de décembre.
Et voilà. Puis on a fait ça un petit peu différemment ce mois-ci, parce que... Par où commencer?
Ben, on s'était dit que des podcasts de 2 heures sur l'astrologie, il y avait peut-être moyen de synthétiser un peu ce qu'on avait envie de vous dire, que ça soit encore plus digeste, plus accessible. Donc, on essaie une nouvelle formule où là, on est un peu moins dans la théorie astrologique, mais un peu plus dans un résumé pratico-pratique.
Ouais. Je pense que tu as bien résumé ça, puis hein? Ça s'inscrit dans un gros projet de refonte du podcast qui est un projet à long terme, mais la petite pause qu'on a pris m'a vraiment permis de planifier le tout, de savoir où est-ce que je m'aligne un petit peu pour les prochains mois. Fait que d'ici là, on va continuer de faire des petits épisodes pour quand même vous donner un petit peu de jus, astrologique.
Jus astrologique.
Voilà. Donc, ce mois-ci, c'est comme notre premier essai d'essayer de repenser un petit peu les météos astrales pour que les outils soient peut-être plus faciles à intégrer.
Absolument.
Avant de plonger dans la météo astrale du mois, on voulait vous faire quelques petites annonces. Annonce qu'on a à vous faire, c'est extrêmement excitant. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux. Geneviève et moi, on va lancer notre première formation d'astrologie qui va avoir lieu du 20 mars au 8 juin 2023. Les inscriptions, elles, débutent le 5 décembre, donc c'est vraiment à nos portes. Puis la formation, dans le fond, les inscriptions débutent le 5 décembre, mais vous avez plusieurs mois pour y penser et vous inscrire. Sauf que si vous êtes certain et certaine de vouloir vous inscrire, je tiens à vous préciser qu'il va y avoir quand même un gros rabais early bird qu'on appelle, donc pour les gens qui veulent s'inscrire dès le lancement. Donc la formation va être 480$ pour 3 mois, donc pour, c'est plus que 12 cours plus 3, ça fait 15 cours, 15 cours plus les 3 préenregistrés, bref. Beaucoup de matériel, sauf qu'avec le code promo Zodiac, dès le lancement, la formation va vous revenir à 399 taxes incluses. Puis l'offre est valide jusqu'au 23 décembre. Donc entre le 5 et le 23 décembre, la formation est à 399 au lieu de 480. Vous allez pouvoir regarder les notes du podcast pour avoir le code promo et tout ça. Puis là, c'est bien beau, mais c'est quoi cette formation-là? Bonne question. Donc, quand on parle de Zodiac, c'est vraiment un vrai deep dive dans les 12 signes astrologiques. Donc, on veut comprendre les archétypes, comment ils existent dans le contexte de notre propre carte du ciel, puis comment bien naviguer chacune des saisons astrologiques. Puis, vous allez voir à la toute fin de l'épisode, on va faire un question-réponse parce qu'on a pris toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, puis on va prendre le temps d'y répondre. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin pour vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation-là. Mais ce qu'on peut vous dire, en fait, c'est que c'est une formation qui va être offerte, comme je vous disais, à partir du 20 mars. Et ça va être tous les lundis soirs en direct de 19h à 20h30. Et chaque session d'une durée de 90 minutes va nous inviter à plonger dans les profondeurs d'un signe à travers des explications, des histoires, des exemples de personnalités connues, des exercices somatiques, des réflexions et bien plus. Fait que on va vraiment vous donner un aperçu complet, global, pour comprendre l'essence de chaque signe. On va aussi se retrouver un jeudi par mois pour des soirées laboratoires astrologiques. Donc, dans ces laboratoires-là, on va répondre aux questions, faire plus d'exercices, puis vous laisser le micro aussi pour des partages. Donc, les sujets qui sont abordés dans la formation vont vous aider à comprendre le fondement de votre carte du ciel, comment bien contextualiser les signes dans les maisons astrologiques, l'incidence des mouvements des planètes dans votre vie, donc dans votre carte du ciel, puis les manières les plus créatives d'incarner chaque saison astrologique. Et je tiens à dire aussi qu'il y a un programme de bourse qui est offert pour que la formation soit accessible au plus grand nombre de gens possible, peu importe vos revenus ou vos capacités à pouvoir vous offrir une telle formation. Donc, entre le 1er décembre et le 15 décembre, donc on a 2 semaines pour appliquer à la bourse. Vous allez pouvoir trouver le lien dans les notes du podcast et nous envoyer votre candidature pour courir la chance d'avoir accès à la bourse. Il y en a plusieurs. Donc, gênez-vous pas. Si vous voulez participer, mais que vous êtes serré, que vous avez peur de que ça soit un stress financier sur vos épaules, allez-y, appliquez. Deuxième petite annonce, je vous rappelle qu'on a 2 collaborateurs avec le podcast Mystique. Donc, on a la compagnie L'Oxy Beauté qui fait des magnifiques produits de qualité pour le corps, pour le visage. Vous pouvez avoir 15% de rabais en utilisant le code promo VanessaDL15. Donc, si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël, que vous n'êtes pas trop sûr quoi offrir aux personnes de votre vie, que vous voulez encourager une super belle compagnie, vous pouvez aller voir leur site web, leurs produits. J'ai mis le lien dans les notes du podcast. Et même chose pour la compagnie Every qui fait le jeu de connexion humaine. Donc, si vous voulez organiser une activité le fun, différente pendant vos parties de Noël, que ce soit en famille, en amis ou encore offrir le jeu à quelqu'un de votre entourage, c'est une super belle idée cadeau, surtout pour les échanges. On ne sait jamais quoi offrir. Là.
Moi, j'aimerais ça recevoir ça.
Ben, moi, je l'ai déjà, mais si je ne l'avais pas, je serais vraiment heureuse de recevoir ça.
Moi aussi.
Ce qui nous amène à discuter de la météo astrale du mois de décembre. Et c'est moi qui vais commencer, je vais vous parler de la première partie du mois. Donc, la vibe générale, la première partie du mois de décembre, ben on est dans la saison du Sagittaire, OK? La saison du Sagittaire, c'est de s'offrir la liberté d'expérimenter. On est tous et toutes en quête de quelque chose, à la recherche de quelque chose qui est difficile à nommer parfois, voire même impossible. Donc, on étire nos frontières personnelles à la recherche de ce qui peut donner un sens à notre vie. Puis, on a toutes dans notre carte du ciel une partie, on va appeler ça une maison, donc un secteur de notre carte du ciel, mais aussi un secteur de notre vie dans laquelle on va être porté à vouloir élargir nos horizons sur le monde puis à s'aventurer dans de nouveaux territoires pour accroître nos perspectives puis notre compréhension du monde. Et c'est cette partie-là, notre carte du ciel, qui est sous le signe du Sagittaire. Donc, on a tous et toutes du Sagittaire dans notre carte du ciel. Et, petit moment d'astrologie chantée, ça me fait beaucoup penser à la chanson « Hunger » de Florence and the Machine. Que je ne vais pas vous chanter, mais que je vais vous laisser écouter pendant un
garde-le.
Merci. Donc, on a toute cette faim-là, cette recherche-là. Puis, on est habité par cette volonté-là de vouloir tout vivre, tout expérimenter, tout connaître. Mais il y a des dangers à ça. Ben, danger. On dramatise un peu, mais quand même. Un des dangers, c'est de tomber dans l'excès, dans les dépenses, les déplacements, les célébrations, la consommation, les rencontres, de s'étirer de tellement de manières qu'on finit par s'éloigner complètement de notre centre. Ou de croire, ça c'est l'autre danger, qu'on a tout expérimenté et donc qu'on connaît la vérité. Ça c'est un peu comme les 2 pièges dans lesquels peut tomber soit le Sagittaire ou dans lesquels on peut tomber quand on est dans l'énergie du Sagittaire. Fait que je pense que Le truc ici, dans la saison du Sagittaire, c'est de cultiver une soif de vivre et d'expérimenter, tout en se rappelant qu'il s'agit d'une quête qui est éternelle, qui est interminable. Donc, on est dans le contexte de l'énergie du mois du Sagittaire, un mois qui commence en trombe, qui commence assez intensément, mais qui va se terminer un peu plus au ralenti. Dans le début du mois, j'ai l'impression qu'il y a comme une vibe où est-ce qu'on a 1000 petits feux à éteindre qui peuvent bloquer notre vision globale, notre vision d'ensemble. Parce qu'à travers l'engouement de la saison du Sagittaire, il y a quelque chose qui vient créer une résistance. En jargon astrologique, c'est que les planètes en Sagittaire, notamment les planètes personnelles comme le Soleil, Vénus, Mercure, s'opposent à la planète Mars qui est en Gémeaux et en rétrograde. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi Mars rétrograde, je vous rappelle que le dernier épisode portait là-dessus, donc vous pouvez absolument aller le réécouter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, si les planètes en Sagittaire s'opposent à Mars rétrograde? C'est comme si on était trop préoccupé par toutes les petites choses qu'on a à faire au quotidien pour se laisser avoir une vue d'ensemble. On aimerait voler à vol d'oiseau au-dessus de notre vie pendant un instant pour gagner en perspective, mais il y a tellement de petits feux à éteindre un peu partout. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne peut pas justement s'offrir cette vue d'ensemble-là. Ça veut juste dire que la tâche va être un petit peu plus difficile, qu'il va falloir approcher les énergies du mois vraiment consciemment pour garder une cadence qui est en respect avec notre énergie puis nos objectifs. Donc, c'est comme s'il va y avoir un naturel ou comme un élan à essayer d'éteindre tous les petits feux, donc à adresser toutes les petites situations qui s'activent, si on veut, au quotidien. Mais ça va nous demander de l'effort de faire comme « Hey, attends, il faut que je prenne le temps de me placer un petit peu au-dessus de ça puis garder ma vue d'ensemble. » L'autre chose que je voyais... c'est que ça va être vraiment important, surtout au début du mois, de s'attarder au nécessaire, autant dans nos actions que dans nos paroles. Parce qu'il y a vraiment une énergie de confrontation avec l'opposition entre les planètes en Sagittaire et Mars, qui est quand même la planète de l'agression. Donc, étant donné qu'il y a une énergie de confrontation, il faut, je pense, faire preuve d'un peu plus de sensibilité, puis j'ai même envie de dire de stratégie quand vient le temps d'adresser des situations, d'avoir certaines conversations. On veut être dans l'écoute et la curiosité plutôt que dans la recherche d'avoir absolument raison. Fait que ça, c'est des petites choses à faire attention au début du mois. Puis, justement, parlant du début du mois, on a une pleine lune le 7 décembre. Dans certaines régions du monde, ça va être le 8 décembre. Donc, une pleine lune qui est en conjonction avec Mars rétrograde. La nouvelle lune en Sagittaire était super chill, était bonne.
Douce.
Mais la pleine lune en Gémeaux est un petit peu survoltée, mettons. Okay?
Système nerveux. Bonjour.
Bonjour. Donc... moi, ce que je voyais, ben, de prime abord, je dirais que ça va être important durant cette lunaison-là d'accepter l'absence de clarté ou même d'accepter qu'on n'a peut-être pas la réponse à quelque chose. Étant donné que Neptune et Jupiter, qui sont les deux en poisson, créent un carré aux planètes en Sagittaire et à Mars rétrograde en Gémeaux. Donc, on est peut-être un petit peu dans le brouillard, un peu comme dans la carte de tarot de la Lune, si vous connaissez le tarot. Donc, on est face à un brouillard, puis c'est de se dire, c'est correct si j'ai pas les réponses, c'est correct si je sais pas tout en ce moment. Puis, un autre thème que je pense qui est super important à aborder ou à réfléchir pendant cette pleine Lune-là, c'est l'observation de la colère. Mars rétrograde, déjà en partant, nous amène à observer comment on accepte puis qu'on tolère notre intensité intérieure. Fait que là, je parle de colère, mais on pourrait parler d'agitation, d'agressivité, puis peut-être même de passion aussi. Mm-hmm. Parce qu'une surdose de passion peut être difficile à réguler intérieurement. Donc, avec la pleine lune qui est directement sur Mars, c'est de se demander comment on prend soin de cette intensité-là. Puis, j'aimerais ça vous proposer une réflexion. quand vous étiez enfant puis que vous viviez un moment de colère, comment les adultes qui s'occupaient de vous réagissaient à cette colère-là? Est-ce qu'ils minimisaient votre réaction, vous envoyaient réfléchir dans votre chambre, tu sais, genre, va dans ta chambre jusqu'à temps que tu te calmes? Est-ce qu'on vous disait, hey, c'est pas beau quand t'es fâché? Chose que j'ai entendue quand même souvent. Ou, voire même, est-ce qu'on vous humiliait? Mm. Est-ce qu'on riait de vous quand vous étiez fâché? Ou, si vous aviez des parents un peu plus woke, est-ce qu'on vous encourageait à vous réguler, à vous exprimer? Est-ce qu'on s'assoyait avec vous dans votre colère puis qu'on vous disait, hey, c'est correct d'être fâché, vis-la ta colère, tu sais?
Est-ce que je peux faire une légère parenthèse parce que ça résonne vraiment fort ce que tu racontes en ce moment? Récemment, j'ai recontacté ce que j'appelle le bacon.
Ah oui!
Donc, moi, quand j'étais petite, ma manière de faire circuler ma colère, c'était vraiment en me tortillant au sol, comme un morceau de bacon, jusqu'à ce que j'arrive à comme faire passer cette énergie-là. Mmh. Puis, en tant que femme adulte, je suis quand même confrontée à la question de la colère récemment, puis fait que je vous parle de ça pour voir si ça peut faire écho, mais j'ai décidé de ramener le bacon dans ma vie.
Mmh.
Et donc, ça fait deux fois que je suis en colère et que je me permets de m'auto-réguler en, je vous jure, me mettant au sol et en me tortillant.
Une crise de bacon consciente.
Oui, et... Wow!
Wow, hein?
Révélation! Le bacon, c'est encore bon!
Faudrait que j'essaye!
Hey, c'est bon, là! Donc, je vais juste rebondir pour vous inviter peut-être à... Quand on est enfant, on développe certaines stratégies qui sont de l'ordre de l'autorégulation qui peuvent vraiment nous permettre de faire circuler cette énergie-là, quand on n'a pas les mots,
mais
par exemple.
Mais c'est qu'on ne nous l'enseigne pas.
Exactement.
C'est vu comme quelque chose de pas correct. C'est une des histoires dans ma famille, justement, puis c'est l'exemple que je voulais donner, mais c'est l'exemple qui m'est arrivé dans la vie à moi. Quand j'étais petite, dans un centre d'achat, j'ai pété une coche à mon père. Puis il raconte encore cet événement-là avec un peu comme de fierté, comme si son truc avait marché, parce que c'est la seule fois de ma vie, dans ces mots, que je lui ai fait honte.
Mm.
Où est-ce que j'ai pété la coche en centre d'achat, puis que mon père a juste quitté. Juste essayer de partir pour montrer qu'il n'allait pas dealer avec ça. Puis que si je voulais faire justement une crise de bacon, ben que j'allais la faire tout seul. Mais ça veut dire que l'enfant retient que la colère peut mener à l'abandon.
Mm.
Tu sais, fait qu'après ça, tu gardes ta colère à l'intérieur de toi, puis c'est pas comme si on avait remplacé ce système de régulation-là par quelque chose d'autre. Il y a juste comme eu un vide après ça. Mais écoute, hein, chacun ses techniques de parentalité.
Absolument.
Puis le but, justement, c'est pas de retourner dans le passé pour jeter le blâme. C'est vraiment pas ça. C'est juste de mieux comprendre. De prendre conscience qu'on a enregistré certaines croyances, certains patterns, puis que ces patterns-là sont peut-être encore actifs à l'intérieur de nous. C'est que dans ma tête encore, j'ai peut-être ce lien-là qui est créé, où est-ce que si j'ai de la colère à exprimer, je peux me faire abandonner.
Mm.
Fait que ce que je fais, je la garde à l'intérieur.
Mm.
Donc, je pense que c'est une super belle lunaison pour observer notre intensité, pour voir comment elle s'exprime, comment on la retient ou on la restreint, puis de se demander... Puis si j'essayais quelque chose de nouveau, justement, une nouvelle manière d'adresser ma colère. Donc, on peut faire le bacon, c'est une idée.
Honnêtement, je vous le suggère. Si jamais ça vous parle, lancez-vous.
Je ne l'avais pas dans ma liste, mais je vais définitivement la rajouter. Moi, j'avais l'idée très alignée avec, justement, ma répression de colère, de parler à ma puissance supérieure, comme si ma puissance supérieure était un parent bienveillant qui pouvait me supporter dans la régulation de mon ressenti, d'appeler une amie. Moi, c'est un de mes trucs aujourd'hui là, qui m'aide vraiment beaucoup. Écrire pour essayer de juste faire passer l'état, essayer de l'accueillir, de l'externaliser. De se mettre à danser pour laisser le corps exprimer physiquement ce qui est ressenti à l'intérieur ou d'aller dans les bois et crier. Et là, les bois, peut-être pas le parc La Fontaine à Montréal, là, parce que vous risquez de sonner l'alarme, mais tu sais, ou même de prendre un oreiller puis de crier dans son oreiller.
Oui.
Donc, de juste permettre à l'intensité d'exister.
Mm.
Je pense que le début du mois de décembre s'inscrit tout à fait là-dedans, mais plus particulièrement la pleine lune.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est pour le début du mois de décembre.
Mais si je me permets de rebondir pour la seconde partie du mois de décembre, je trouve que la thématique de la colère continue à se faire travailler, mais cette fois-ci dans une autre texture ou un autre contexte, parce que Jupiter, la planète de l'expansion, va rentrer dans le signe du Bélier. Et qui est aussi associé donc à la planète Mars et à notre feu, à nos pulsions, à nos désirs. Puis là, Jupiter fait un agrandissement, une loupe sur cette thématique-là. Fait que c'est comme si dans la deuxième partie du mois, on a encore l'opportunité de continuer à observer l'énergie de notre feu. Ça peut être la colère, ça peut être de la passion dans ce cas-ci, mais certainement quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous. Avec, encore une fois, d'autres genres d'outils. Parce que ce qui arrive aussi dans la deuxième partie du mois de décembre, c'est que le Soleil et toutes les planètes qui s'en rapprochent vont changer de signe. Mm-hmm. On va passer du feu du Sagittaire pour tourner une grande page archétypale puis rentrer dans l'énergie du Capricorne. Personnellement, c'est une page que j'adore tourner. Mm-hmm. Évidemment, il y a la concordance avec le temps des fêtes et la saison du Capricorne que j'ai toujours vraiment trouvée intéressante parce que, évidemment, c'est un moment qui nous ramène vraiment aux traditions, à la famille, aux choses qu'on connaît, à ce ground-là qu'on vit collectivement.
Il y a quelque chose de solennel aussi.
Oui, ouais. C'est vraiment une période aussi pour moi qui est un peu contradictoire avec toutes les célébrations, mais qui m'amène tout le temps dans une zone vraiment plus d'introspection et un grand désir de solitude. Fait que j'ai envie de vous inviter à voir pour la fin du mois, puis pour ce temps des fêtes-là, même si on se retrouve dans un contexte très traditionnel ou peut-être que vous sentez que vous avez des obligations, hein, Capricorne?
Mm-hmm.
Comment est-ce que vous pouvez vous permettre des petites fenêtres de solitude, de plus d'introspection. Moi, c'est un moment où souvent je ressors mon journal, où je prends des marches, où vraiment je fais des bilans. Aussi, pour moi, cette énergie-là du Capricorne permet de faire déposer les leçons de la saison du Sagittaire, puis vu que ça va être une saison du Sagittaire qui est quand même mouvementée, puis que ça continue dans la fin du mois à brasser, je trouve quand même intérieurement, je vois vraiment la saison du Capricorne comme un bombe, presque, avec toute l'agitation mentale, énergétique du début du mois qui se continue avec Jupiter en Bélier. C'est comme si l'invitation à se déposer, à s'enraciner, à être dans notre nature, à être vraiment les deux pieds sur terre, je le vois vraiment comme une belle opportunité pour cette saison-ci, pour ce mois-là de décembre, de vraiment se permettre de goûter au Capricorne, oui, dans son aspect plus traditionnel, mais aussi dans son aspect d'enracinement. Ouais, la terre, ça fait beaucoup de bien après tout ce feu-là.
Bien, surtout, puis tu vas y revenir tantôt, ouais. Mais on va terminer le mois de décembre avec une rétrograde de Mercure en Capricorne aussi.
Yeah.
Fait que parlant justement d'enracinement, de retour à soi.
Absolument.
Ça en fait tellement partie, tu sais.
C'est donc bien fait. Hein?
Ben, tu sais, écoute, la vie est faite de même.
C'est beau.
La vie est bien faite.
J'aime bien ça. C'est un moment de Sagittaire, là, de voir le big picture, mais comme, waouh, je trouve ça donc bien un bon moment pour une Mercure rétrograde en Capricorne.
C'est drôle, quand tu parlais, ça me fait penser que je viens d'avoir le déclic, en fait, puis j'en reviens pas que je l'ai pas eu avant, mais pour moi, la période du temps des fêtes, ça a toujours été une période difficile. Je suis un peu comme le Grinch de Noël, tu sais, tout le monde aime le temps des fêtes, puis moi, j'ai vraiment de la misère avec cette énergie-là, ça me rend très mélancolique, je trouve ça... j'ai même envie de dire que je trouve ça un peu lugubre. C'est comme je le vis vraiment comme... lourd, puis bref, moins dans les festivités, souvent je pleure, puis c'est comme, c'est un mélange de tristesse, de mélancolie, de plein de trucs, puis je viens de réaliser que j'ai le stellium générationnel de Saturne, Uranus et Neptune dans ma maison 4 en Capricorne.
Baby shoe!
Fait que ça me ramène tellement dans mes feels, puis avec Saturne, il y a quelque chose justement d'un petit peu plus... je ne vais pas dire sombre.
Solennel,
puis le mot m'échappe en ce moment, mais ouais, bref. Fait que je pense à ça, puis je suis genre, ah ben oui, Grinch.
Oh, mon petit Grinch de Noël.
Oui, oui.
Mais j'ai envie de dire à tous les petits Grinch de Noël, allez-y, allez-y. Oui.
C'est
Grinch away. Grinch away, OK? Parce qu'il y a vraiment un contraste entre la commercialisation du temps des fêtes puis l'énergie, en fait, qui est à notre disposition. Fait qu'on est... Je pense que tu n'es pas la seule. Moi, je suis aussi... vraiment pas emballée de voir 1 million de personnes pendant le temps des fêtes. Par contre, d'être vraiment avec les personnes qui m'enracinent, qui mettent dans mon cœur, d'avoir des traditions, ça me nourrit. Mais c'est un vraiment bon moment pour peut-être vous créer des nouvelles traditions ou d'écouter un peu plus, en fait, ce que vous avez vraiment envie de faire. Puis le Capricorne, évidemment, met de l'avant notre sentiment de responsabilité, la part de nous qui est mature, puis qui dit « OK, mais je vais faire ce que j'ai à faire parce que c'est mon devoir. » Fait que ça, c'est quand même noble, mais pas au dépens, peut-être, de ce qui brûle ou ce qui monte en vous. Car pendant que le soleil bascule et on tourne la page dans le Capricorne, il y a aussi donc la planète Jupiter qui rentre en Bélier. Et ces deux énergies-là se font un carré, donc rentrent un peu dans un match de boxe ou une conversation houleuse. Et pour moi, la conversation fait beaucoup écho à une tension de rythme. Donc Jupiter en Bélier, c'est ici, maintenant, hier, il y a une impatience.
C'est un sens de l'urgence.
Urgence. Je vois quasiment comme une maison qui brûle, OK? Et c'est une métaphore. Mais, puis le Capricorne qui est comme, ouais, mais attends, tu peux pas juste comme, elle va chercher ton album photo, puis tout de suite, assure-toi que tu as tout ce qu'il faut. C'est comme si, collectivement, je pense que la maison qui brûle est une métaphore qu'on peut... qu'on peut certainement appliquer à l'état du monde, mais ça, c'est en contraste avec le Capricorne qui dit qu'il faut une structure, une méthodologie, du temps, de la patience, et ça, c'est vraiment deux rythmes qui peuvent être inconfortables, de sentir peut-être une nouvelle pulsion, une nouvelle passion, un nouveau désir en contraste ou un peu en tension avec le Capricorne qui dit « Oui, mais les choses prennent du temps pour changer, prennent de la patience pour changer. » Donc, l'impatience serait une thématique à laquelle je pense qu'on pourrait tous mettre dans notre petit baluchon puis voir qu'est-ce que ça fait quand ça monte, comment est-ce que je peux à la fois écouter mon feu, hein, c'est pas non plus de nier notre colère, de nier notre énergie créatrice, de nier nos désirs, et en même temps avoir une certaine dose de réalisme dans nos envolées.
Ça résonne. Ça rentre pas ce que tu
dis. Je te parle.
Tu me parles à moi, là. Puis tout ça, dans ce que tu dis, juste pour mettre les gens un petit peu en contexte dans le mois,
oui.
On parle à peu près au 21 décembre. Fait qu'on est un petit peu plus passé la moitié du mois.
Exactement. Le 21 décembre, on a le soleil qui rentre en Capricorne, pardon. On a la nouvelle lune en Capricorne le 23 décembre. Donc, on est vraiment dans la troisième semaine, vraiment dans le temps des fêtes, là, dans le moment où c'est le temps de manger de la dinde.
Ou la tourtière vegan.
Oui, oui. Même pas de tourtière, rien de ça.
Oui, tu peux aussi manger des sushis à Noël.
C'est ça.
C'est correct.
Ouais, bien correct.
Sushis vegan.
Tout
le monde ici.
Tout est possible.
Tout est possible.
Pour votre repas du temps des fêtes, c'est ce qu'on a envie de vous dire. mais bref, c'est un mois, on va se le dire, haut en couleur. Il y a beaucoup d'énergie de feu. Et il y a aussi des carrés puis des oppositions, donc un certain besoin de négocier, ouais, à l'intérieur de soi, à toutes sortes de niveaux, mais certainement dans la deuxième partie du mois, je pense que c'est une danse très fine entre garder les deux pieds sur terre, être dans une certaine forme de patience malgré des choses qui peuvent vraiment nous mettre en colère ou tu sais, c'est comme les choses pour changer de manière structurelle, hein, Capricorne, ont besoin d'étapes.
Ouais.
Et Jupiter en Bélier aimerait brûler toutes les étapes.
Mm-hmm.
Et donc, ça, c'est vraiment toute une énergie à contenir personnellement et collectivement.
Oui, c'est comme de faire un peu d'harmoniser ou d'essayer de faire cohabiter l'agitation, la frustration, l'empressement
mm-hmm.
avec la patience,
mm-hmm.
Un rythme qui est soutenu,
ouais.
la construction de fondations.
Ouais.
Donc, comme. Mais tu sais, les deux peuvent bien cohabiter.
Absolument.
Aussi, si on se permet justement de vivre.
Absolument. Dans un carré, je dis souvent chacun son tour. C'est comme laisse monter l'énergie de ton feu. Vis cette. Tu sais, fais circuler cette énergie-là. Puis après ça, retourne à ton journal ou laisse ça se déposer. Fait qu'absolument, ils peuvent très bien collaborer ensemble, mais peut-être pas en même temps.
Ouais.
Hein?
Puis il faut pas qu'un prenne plus de place que l'autre. Faut laisser
c'est ça.
La place aux deux. C'est
absolument. Alors voilà, mes chers.
Et si tu avais un conseil à nous donner pour le mois de décembre, ce serait quoi, toi?
Faire preuve de beaucoup de patience avec soi-même et les autres.
C'est sage, ça. Très sage. De mon côté, j'avais envie d'inviter les gens à éviter une vision dualiste. Tu sais, souvent, quand on se fait offrir certaines idées ou qu'on lit une nouvelle ou qu'on voit quelque chose se passer sur les réseaux sociaux, on catégorise très rapidement cette chose-là de bien ou de mal. Puis, je pense que ça va être important ce mois-ci d'approcher chaque situation comme le ferait un philosophe. Puis même de nous mettre au défi de ne pas avoir de réponse ou de ne pas avoir d'opinion sur quelque chose. Ou qu'on peut se laisser le temps de réfléchir avant, ou même de ne jamais catégoriser la chose, mais avant d'émettre une opinion, t'sais, de se laisser le temps de méditer sur la question. Surtout quand on fait face à des nouvelles idées, des nouvelles pensées, on n'a pas besoin de se forger une opinion sur le moment même. Puis je pense que c'est une des gros apprentissages de Mars rétrograde en Gémeaux aussi, que je voulais ramener, puis je le ramène aussi pour les parties de famille, si on en a, ou même entre amis. T'sais, souvent, c'est dans ces moments-là que y a beaucoup de générations qui cohabitent dans un même espace, des idées qui peuvent être très conflictuelles, confrontationnelles, ça se dit pas, en confrontation,
ouais,
tu sais.
Confrontante, ouais.
C'est ça, d'être vraiment, d'essayer d'être moins dualiste dans notre vision des choses.
La chose qui me vient vraiment en pensant à Mars rétrograde puis à toute cette tension-là, c'est aussi qu'il y a parfois plusieurs bonnes réponses.
Ouais.
Tu sais, ce concept-là, que notre vérité n'est pas la vérité. Que, hey, il y a peut-être plein de bonnes réponses ou plein de points de vue.
To all my Sagittarius out there, did you hear this?
Keep that in mind.
On vous taquine, on vous aime. On vous aime, nos petits
centaures. Ah oui, ah oui.
Il en faut des centaures dans le party.
Oui, ben oui.
Pour sa lèvre.
Ah oui.
Ouais. Puis c'est ça qu'on avait à vous dire pour le mois de décembre.
Hey, on a bien fait ça.
Ouais, c'était doux.
C'était synthétisé.
Ouais.
Bravo.
Ben j'espère que vous nous dites bravo.
Nous, on est bien contentes.
Laissez-nous savoir si ça vous a plu, si ça vous donne des bons outils. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois si jamais vous en ressentez le besoin. Et à partir d'ici, on va répondre à vos questions concernant la formation d'astrologie. La première question qu'on s'est fait poser, quelle branche d'astrologie enseignerez-vous? Tropicale, sidérale, humaniste, holistique? Donc, ce qu'on va enseigner, c'est de l'astrologie tropicale qui est inspirée de l'école évolutive selon les enseignements de Stephen Forrest. Hein? On l'aime d'amour.
Notre grand-papa.
Donc, Geneviève et moi, on a suivi nos formations avec lui. Ça fait plusieurs années qu'on est versé dans son approche à lui. Puis même si on en a étudié d'autres, c'est vraiment vers celle-là qu'on revient toujours, vraiment celle-là qui nous parle le plus et qu'on pratique, donc celle qu'on va enseigner. Puis quand on parle d'astrologie évolutive, c'est que ça place vraiment chaque individu au volant de sa vie, en l'aidant à mieux comprendre le territoire sur lequel il conduit, puis la route la plus appropriée à son développement. Donc, on va vous en parler un petit peu plus, surtout dans la formation d'astrologie à partir du 1er février sur Teachable. Il va y avoir 3 cours préenregistrés qui vont être disponibles. Et le premier cours va être disponible gratuitement. Puis c'est un cours, dans le fond, qui explique c'est quoi l'astrologie évolutive. Donc, on va pouvoir vous en parler un petit peu plus à ce moment-là. Deuxième question, est-ce qu'il y a un nombre maximum de participants à la formation? Non, il n'y en a pas. Étant donné que c'est une formation en ligne, il n'y a pas de maximum, puis on ne ressent pas non plus le besoin d'en mettre un. Troisième question, est-ce qu'on peut télécharger les vidéos et le contenu du cours pour travailler hors connexion? Les cours sont offerts en direct. Ça ne sera sûrement pas sur Zoom. Ça va être en fait via YouTube, un lien qui va vous être envoyé par courriel. Étant donné qu'on change un petit peu la formule d'enregistrement, on ne veut pas trop vous en dire, mais disons que les enregistrements vidéo et audio vont être de vraiment top qualité. Donc, bref, tout ça pour dire que ça va être donné en direct, mais ensuite mis sur Teachable, où est-ce que vous allez pouvoir télécharger les notes de cours, mais pas les vidéos. Et c'est pas non plus possible d'écouter hors ligne les vidéos. Donc, vous allez vraiment avoir besoin d'un accès à Internet pour voir les vidéos du cours. Donc, c'est ça. La réponse à la question, c'est non. Pas disponible hors connexion. Quatrième question. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs paiements? Absolument. Le but, c'est vraiment que la formation soit accessible le plus possible. Puis on sait que pour beaucoup de gens, de mettre un montant comme 400 ou 480 $, taxes incluses, je vous rappelle, c'est un montant significatif. Puis on veut vraiment que ça soit accessible. Donc, il va y avoir un plan de paiement de 2, 4 ou 6 paiements. Autant pour le 480 $ que le 400 $ si vous prenez le rabais Early Bird. Donc, le rabais s'applique sur les plans aussi de paiement. Puis je vous rappelle qu'il y a aussi le programme de bourse auquel vous pouvez appliquer entre le 1er décembre et le 19 décembre.
15.
J'avais dit 15, merci. Tellement de dates à souvenir dans ma tête en ce moment. Cinquième question. Est-ce que vous avez décidé à quelle heure ce sera donné les lundis soirs et est-ce qu'il y aura une limite de temps pour l'accès en différé? Donc, les cours le lundi soir vont avoir lieu à 19h jusqu'à 20h30 et même chose pour les jeudis de chaque mois. Donc, il y a un cours par mois les jeudis soirs de 19h à 20h30. Les cours vont être... qu'est-ce que j'allais dire avec ça?
Accès en différé.
Oui, donc, merci.
I got you.
Pour l'accès en différé, en fait, j'aimerais ça vous dire que ça va être disponible à vie, mais c'est irréaliste. Parce que je ne sais pas si la plateforme Teachable va exister pour toute la vie, puis je ne sais pas où est-ce que je vais être dans 10 ans. Mais si je pouvais le dire, je le dirais.
Mm.
Cela dit, ce que je vous propose, c'est que nous, on s'engage à laisser le contenu disponible pour 2 ans minimum. Donc, vous avez au moins 2 ans dans lesquels la plateforme va être active pour consommer les cours ou les réécouter si vous voulez. Sixième question, est-ce que ça s'adresse à tous les niveaux? Là, il va falloir qu'on s'explique. Donc, est-ce que c'est considéré comme une formation niveau débutant? Je trouve ça très difficile de répondre à cette question-là. Parce que mon observation, sans vouloir froisser qui que ce soit, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui se considèrent avancées dans leur compréhension de l'astrologie sans toutefois avoir des bases qui sont vraiment solides. Plus je dis avancée, j'aurais pu dire intermédiaire mm-hmm. ou bien versée dans l'astrologie. Bref. Puis j'ai l'impression que souvent, on saute des étapes. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'ensuite, quand on est rendu à parler d'aspects ou qu'on va plus loin dans notre lecture complète des cartes du ciel, on a de la misère à synthétiser l'information parce que les bases ne sont pas assez bien intégrées. Fait que c'est certain que la formation est appropriée pour les débutants parce qu'on va voir les bases puis on veut vraiment que tout le monde se sente bien supporté là-dedans. Mais est-ce que c'est pour les gens avancés? Si t'es vraiment avancé puis vraiment t'es sûr que t'as des bases solides, alors peut-être que tu vas trouver que c'est redondant. Mais je vous invite à vous poser cette question-là, OK? Admettons que vous connaissez le signe du Sagittaire, OK? Comme étant l'archétype du voyageur qui nous invite sur une quête éternelle de compréhension de la vie, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous comprenez vraiment le signe du Sagittaire dans la logique de son mode, qui est un mode mutable, et de l'élément, qui est l'élément du feu? Est-ce que vous comprenez cette rencontre-là du mode et de l'élément? Est-ce que tu le comprends dans ta tête ou est-ce que tu sais comment l'incarner concrètement dans ta vie? Moi, c'est la question que je vous amène à vous poser, puis je vais l'expliquer encore plus au cours des prochaines questions. Avais-tu quelque chose à ajouter, Geneviève?
Bien, je dirais, c'est comme si notre désir de vraiment prendre le temps d'en mettre la table, ouais, comme dit ma chère collègue, et qui explique très bien ce qu'on essaie de faire, c'est comme d'être capable de, oui, intégrer la théorie, mais de tellement passer au peigne fin ou en profondeur chaque archétype pour vraiment être capable de même les sentir. Fait qu'il y a vraiment un aspect théorique et appliqué dans la formation qui peut être intéressant même pour quelqu'un qui connaît. Ouais, avec sa tête, avec parce qu'il y a beaucoup de théories astrologiques. Puis là, c'est comme si l'invitation, c'est de prendre ça puis de vraiment l'appliquer à votre vie d'abord et avant tout, mais de le sentir un peu plus.
Très bien dit. Mm. Donc, juste pour réitérer, l'idée, c'est vraiment de mettre la table de manière à ce que tout soit vraiment clair et intégré, pas juste compris au niveau du mental. Mm-hmm. Septième question, est-ce que cette formation est appropriée pour devenir astrologue professionnel? Cette formation ne permet pas de devenir astrologue professionnel, mais c'est un début. Donc, devenir astrologue, la gang, là, ça se fait pas dans une formation de 3 mois, c'est impossible. À moins que ce soit une formation vraiment à temps plein, mais encore là, tu sais, il y a juste tellement de choses à voir, il y a trop de connaissances à intégrer. Mais si vous avez envie d'entamer ce parcours-là, c'est vraiment la première étape et nous, on a envie de faire ça avec vous. Donc, on voit vraiment cette formation-là comme on met la table, on place les fondations, puis on va bâtir par-dessus ça pour en arriver là éventuellement. Mm-hmm. Huitième question, est-ce qu'on adresse les aspects dans la formation? On va survoler les planètes en parlant des planètes maîtresses de chaque signe, mais on ne va pas rentrer dans les profondeurs de chaque planète. Ça serait plus le niveau 2, je pense. Encore une fois, le but, c'est d'offrir du contenu de qualité qui va être digeste et bien intégré. Pour ce qui est des aspects, on les aborde pas, mais on met tout en place pour que vous puissiez les comprendre pour vrai. Donc, je vous donne un exemple. Si on dit que l'aspect du carré, c'est une tension, OK? C'est bien beau, là. Mais pour réellement bien saisir la logique, le pourquoi, on doit comprendre que les carrés se forment en 2 signes du même mode. Puis, on doit comprendre l'essence des 2 signes en question. Donc, par exemple, si on prend un carré entre le Gémeaux et le Poisson, il faut comprendre l'essence du Gémeaux, l'essence du Poisson, pour ensuite comprendre comment ils vont rentrer en tension, pourquoi il s'agit d'un carré. Puis, le but, c'est de vous donner les bonnes informations, des fondations solides, pour que dans les niveaux suivants, quand on se met à vous parler d'un carré puis d'une tension entre 2 signes, ça soit une évidence. Vous vous dites, ben oui, c'est évident qu'il y a une tension, qu'il y a un carré entre les deux, plutôt que d'essayer de vous dire c'est quoi un carré, puis ensuite d'essayer de comprendre, mais c'est quoi de base la tension entre les deux, je comprends pas comment la mettre en contexte. Donc, on installe tout pour que la logique prime sur le par cœur. 9e question. Serons-nous en mesure d'interpréter grosso modo n'importe quelle carte du ciel à l'issue de la formation? Comme vous pouvez vous en douter, suite à ce qu'on vient de dire, la réponse c'est non. On est dans le domaine, Geneviève et moi, depuis un moment déjà, puis on voit le penchant pour l'instantanéité, puis on le comprend aussi. T'sais, je veux dire, quand on est passionné d'un sujet, on aimerait claquer des doigts, puis tout savoir tout de suite. Allô le carré entre Jupiter en Bélier et les planètes en Capricorne, c'est comme...
Allô!
On voudrait que ça se passe vite, mais il faut placer les fondations. Parce que quand on mise sur l'instantanéité, c'est le problème devient la qualité. Mm-hmm. Puis pas juste la qualité de ce qu'on vous offrirait, mais aussi de ce que vous feriez avec ce qu'on vous a laissé. Donc, on ne veut pas tomber dans le piège parce que ça nous tient à cœur de nous assurer qu'éventuellement, les gens qu'on va avoir formés, les gens qui vont avoir complété les différents niveaux de la formation, vont pouvoir partir dans le monde puis offrir des services de qualité. Puis ça, ça nous tient vraiment à cœur, puis il faut faire attention avec ça, je pense, dans le domaine de l'astrologie de manière générale. T'sais.
J'ajouterais aussi que, évidemment, on part de notre carte du ciel pour comprendre. Donc, ce que je peux certainement vous assurer, c'est que vous allez beaucoup mieux comprendre votre propre carte du ciel, qu'on va vous laisser des moments pour des questions, qu'il va y avoir de l'espace pour de l'intégration. Fait que je pense certainement que vous allez mieux comprendre la vôtre, et ça, c'est un pas fondamental pour comprendre celle des autres. Ouais. Fait que ça va être un terrain super fertile pour vous personnellement, parce que c'est clair que on est nos premiers cobayes quand on embarque, et je pense que c'est le désir vient beaucoup d'une compréhension de soi. Donc certainement, votre propre carte du ciel va vous être beaucoup moins mystérieuse.
Ben oui, puis même les maisons, les secteurs de votre carte du ciel dans lesquels vous n'avez pas de planète, vous allez être capable de savoir comment les adresser. Mm-hmm. Si tu es ascendant Sagittaire, puis tu sais que ta maison 2 est en Scorpion, tu vas savoir comment aborder cet aspect-là de ta vie, ta valeur personnelle, tes ressources, mm-hmm. tes finances, etc. Puis ça va faire en sorte que quand il va y avoir des mouvements de planète en Scorpion, quand tu le sais, par exemple, t'entends que, par exemple, Mars est en Scorpion, bien, tu vas savoir quelle partie de ta vie ça vient activer. Mm-hmm. Fait qu'il va avoir aussi une meilleure compréhension de comment les transits vous affectent. Mm-hmm. Sans aller dans les précisions, tout ça, la logique va vraiment commencer à s'installer.
Oui.
Fait que quand vous allez entendre des affaires comme « Ah, Mars rétrograde en Gémeaux », bien, vous allez faire « Ah, oh, moi, ça se passe là dans ma carte du ciel et là dans ma vie. » Peut-être qu'éventuellement, vous n'aurez même plus besoin de métaux astrales. Hey! On va devenir complètement inutile. On devrait-tu faire ça, nous? C'est une bonne idée qu'on a eue.
Oui, plus.
Dixième question. Il y en a juste 11, la gang, inquiétez-vous pas. Est-ce qu'on va parler de Lilith, du nœud nord et de Stellium? Là, il y a plein de gens qui ont des fils qui se sont touchés dans leur cerveau, je pense. J'aimerais beaucoup savoir ce que c'est et ce que ça signifie. Est-ce qu'on va à la fin savoir décrypter les maisons et une charte astrale? On va savoir décrypter les maisons, oui. Mais on ne va pas parler de Lilith, on ne va pas parler de Nord, puis on ne veut pas parler de Stellium non plus, parce qu'on veut vraiment se concentrer sur décrypter comment les signes, comment ces signes-là existent, mais surtout comment les intégrer dans les maisons. Mm-hmm. On ne va même pas placer les planètes là-dessus encore, tellement qu'on veut que les fondations soient solides. Mais je pense qu'une fois que ça va être placé, quand on va être rendu au niveau 2, ça va être tellement plus digeste d'aller placer les planètes là-dessus. Là, ouais. C'est comme la table est mise, ah ouais, ton petit bouillon
exactement.
De poulet dans ton bol de soupe.
Exactement.
Voilà.
Mais je veux juste, tu parlais d'instantanéité, je pense aussi qu'il y a un désir d'avoir beaucoup d'informations, comme plus j'en sais. En fait, parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent déjà sur ce sujet-là, je comprends les gens d'être curieux, de faire genre « Hey, Lilith, ça veut dire quoi? » Mais je pense aussi, comme tu viens de dire, c'est comme de passer par vraiment une base solide, ça permet ensuite de comprendre ça avec beaucoup plus d'aisance,
tellement.
D'assimiler l'information beaucoup plus facilement après.
Mm-hmm.
Voilà.
C'est vraiment très, très vrai, ça. Puis aussi que, tu sais, en ce moment, Mars en Gémeaux, là, rétrograde, un des trucs qu'on a discuté, puis qui est vraiment important de conscientiser en ce moment, c'est qu'on a accès à beaucoup trop d'informations.
Beaucoup trop.
Et beaucoup trop en même temps.
Oui.
C'est ça qui fait qu'on n'assimile pas. Puis qu'après, écoute, moi, ça m'est déjà arrivé, bien honnêtement, sur Instagram, d'avoir quelqu'un qui offre des services de carte du ciel, qui m'écrivait pour me demander sur sa carte du ciel, c'était quoi la différence entre son Saturne et un transit.
Wow.
Puis là, je me disais, wow, attends, là. Comme si on est rendu à offrir des services, ça, c'est censé être intégré.
Mm.
Fait que c'est tellement important de ne pas mettre la charrue devant les bœufs, puis de vraiment y aller en étapes. puis de prendre son temps. Onzième et dernière question. Vas-tu aborder l'aspect karmique de l'astrologie? On ne va pas l'aborder dans ce niveau-ci, quoique dans l'astrologie évolutive, la notion karmique est quand même centrale à l'astrologie évolutive. Donc, c'est dire que oui, en explorant chaque signe, il y a quand même une notion karmique un peu cachée,
oui,
qui est dans l'explication. Absolument. Du signe. Mais on va plus en parler plus tard, parce qu'on veut y aller par étapes, mm-hmm, justement. Mais sachez que dans l'astrologie évolutive, la notion de vie antérieure et d'idée justement que notre carte du ciel est un peu comme une réponse à ce qu'on aurait vécu dans des vies antérieures, ou des dynamiques passées, très 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 passées, c'est fondamental à l'approche de l'astrologie évolutive. Fait que oui, ça en fait partie. Ça va juste pas être adressé directement.
Ou de manière, ouais, ou de manière technique.
De manière, ouais, technique.
On va pas rentrer dans le pourquoi du comment des interactions, par exemple, avec le nœud sud ou le nœud nord, mais de manière archétypale, chaque signe comporte un élément karmique. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment plus à ce niveau-là qu'on va adresser cet aspect-là.
Voilà. Et c'est ce qui termine notre petite question-réponse.
Ben!
Hey, c'est pas fin, ça?
Oh!
Du génie!
Je suis vraiment excitée.
Moi aussi, je suis vraiment excitée. C'est un beau projet qu'on travaille dessus depuis plusieurs mois déjà. On avait très, très hâte de vous le présenter. Si vous avez d'autres questions pour nous, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi nous suivre maintenant sur Instagram, zodiac.astrologie. Sinon, vous pouvez suivre Geneviève sur son compte Instagram, moi sur le mien. Tous les liens sont dans les notes du podcast. Puis sur ça, on vous souhaite un mois de décembre dans lequel vous saurez naviguer l'intensité tout en faisant preuve de patience.
Joyeux Noël!
Joyeux Noël et bonne année!
Oh, bonne année!
Puis je veux vraiment prendre le temps de dire que maudit qu'on est reconnaissante que vous soyez là, que vraiment vous nous écoutiez, puis que vous nous fassiez sentir que vous avez hâte à chaque épisode. Mm. Puis ce sentiment-là d'être écouté, d'avoir des gens qui sont présents, qui sont engagés dans le travail qu'on fait, c'est vraiment, ça n'a pas de prix en fait pour nous. Puis c'est une énorme source de motivation. Puis on est juste vraiment reconnaissante de ce qu'on partage ensemble dans notre communauté astrologique.
Absolument.
Donc, on vous embrasse très fort.
Ah oui.
Et on vous dit à très bientôt, tout le monde.
À bientôt.
Si vous voulez supporter le podcast Mystique, vous pouvez laisser 5 étoiles soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Je vous invite aussi à partager l'épisode avec les gens de votre entourage ou encore sur vos réseaux sociaux. J'aimerais remercier Mimo Magri pour la musique originale du podcast, ainsi que Valérie Boulet pour l'image du ciel du podcast. Pas celle sur les médias sociaux, celle sur Spotify et sur Internet.